Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Vaudoise. Régulièrement, on promène notre micro dans le canton pour vous faire rencontrer des personnalités attachantes. Au son du train, des oiseaux ou de la neige, elles vous font découvrir des lieux emblématiques sous un nouveau jour. Alors bon voyage sonore sur notre terre d'inspiration.
Cinquième épisode de Fréquence Vaudoise, on se trouve du côté d'Ormont dessus. Et puis je m'approche directement de notre hôte du jour, notre interlocuteur qui est monsieur Philippe Nicolier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Philippe, on est dans un lieu assez particulier. Je trouve que le mieux c'est que vous nous le décriviez, que vous nous expliquiez où est-ce qu'on est.
Alors il a ceci déjà de particulier que Ormont-Dessus ne se limite pas uniquement au Diableret, il se trouve à Vers-l'Église, qui historiquement est le chef-lieu de la commune, et un peu en aval du village de Vers-l'Église, le long de la Grande Eau, au milieu du 19e siècle. Il a été construit une scierie qui aujourd'hui encore fonctionne avec l'eau de la rivière.
Donc là, on est vraiment au cœur de la scierie, on entend vraiment les bruits aussi derrière nous. Donc c'est une scierie que vous avez réhabilitée dernièrement, c'est ça?
Voilà, c'est une scierie, évidemment, un petit peu comme toutes les scieries du canton, d'ailleurs, qui ont disparu par, on va dire, contraintes économiques. Dieu merci, celle-ci n'a jamais été électrifiée. C'est peut-être une des raisons pourquoi elle n'a pas disparu, d'ailleurs. Le dernier exploitant, on va dire professionnel, qui est décédé en 1978, il n'était pas tombé dans le travers de l'euphorie du 20e siècle. Une exploitation, on va dire, artisanale lui suffisait. Il n'a pas électrifié cette scierie. C'est ce qui nous permet de présenter au public dorénavant un joyau de l'économie artisanale de la vallée.
Donc c'est un endroit qui se visite volontiers.
Oui, alors tous les samedis de l'été, on l'ouvre aux visiteurs. Et puis, sur demande, des groupes, mais on considère groupe déjà de nous. C'est-à-dire que c'est très volontiers qu'on la met en route pour la présenter à qui veut bien s'y intéresser. Avance en même temps, toi, là-bas. On prend de l'autre côté.
Expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire.
Donc on est en train de pointer un billon sur le cadre. Et c'est un peu quelque chose de particulier. C'est pour faire un bain public pour aux environs du jardin d'enfants au Diableret.
Ouais, arrête-toi là. Je vais regarder de l'autre côté.
Le double mètre, c'est un outil indispensable.
Il est toujours là. On dort avec. On envoie. On va entendre tourner, démarrer la roue.
Alors là, on a une visite de classe, hein, en même temps que notre venue dans la scierie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme démonstration?
Donc là, un petit peu tout au long de cette semaine, on a des classes vaudoises. Ces jours passés, c'était des élèves de la Riviera. Là, ce sont des élèves de la Valais qui viennent voir un petit peu cette curiosité. Et donc, on ne fait pas juste une démonstration, comme je disais, scier du bois pour scier du bois. Mais donc là, on profite un petit peu de ces démonstrations pour notamment préparer des bancs publics qui seront installés au Diableret. Voilà, c'est là que ça se passe, hein, la transformation du mouvement circulaire. On a un mouvement va-et-vient. C'est cette bielle qui est fixée non pas à l'axe de la roue, mais un peu en périphérie qui lui donne ce mouvement linéaire en haut en bas.
Tout ça, alors, vous l'expliquez régulièrement aux visiteurs?
Voilà, on explique ça assez régulièrement. Et c'est vrai que pour des enfants, alors ça dépend un petit peu des âges des enfants, c'est sûr et certain. Mais il y a certains âges, là, vers, on dira, 12-13 ans, c'est génial de faire ces visites parce qu'il y a des questions très, très pertinentes, très, très pointues. Quand on leur explique, notamment le jeu de la poulie folle, poulie fixe, ils comprennent. La bielle, tout de suite, ils font référence à la machine à vapeur. On voit qu'ils sont là, attentifs. C'est des jolis moments, oui.
Vous avez effectué tout ce travail de réhabilitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles en ont été les étapes?
Alors, c'est clair que quand on a pu acquérir cette scierie, c'était en 2015. D'abord, il a fallu entreprendre tout un tas de démarches, ne serait-ce que pour trouver l'argent, pour remettre à niveau cette scierie. C'était quand même plusieurs centaines de milliers de francs qu'il fallait trouver. Merci à toutes les entités qui nous ont soutenus dans cette démarche. Après, bien sûr, c'est un objet qui est, on va dire, connu de vieille date, qui a d'ailleurs une note 2 au recensement architectural. Et un peu dans le prolongement de cet intérêt de la part des monuments historiques pour cet objet, on a demandé carrément qu'il soit classé monument historique. Et en fait, toutes ces démarches terminées, on a acheté le strict minimum du bois nécessaire pour juste la remettre en activité. C'était essentiellement le bois pour renforcer la partie est de la scie qui était à deux doigts de s'écrouler, pour être très clair. Et puis surtout, reconstruire le canal d'amener d'eau sur la roue à aube qui, Dieu merci, était encore en excellent état. Et donc, à partir du moment où on a réussi de la remettre en fonction, tout au long de l'été 2017 et de l'été 2018, la scie a scié le bois nécessaire à sa propre mise en état.
Vous avez utilisé uniquement du bois local pour cette reconstruction ?
Oui, bien sûr. C'est tout du bois local, de l'épicéa de la région, bien sûr. Il faut dire aussi que cette tâche de scier le bois nécessaire à sa propre remise en état, c'était l'occasion pour les quelques rares derniers, je veux dire même la dernière personne qui savait utiliser cet objet, de transmettre son savoir. Parce que vous savez que dorénavant, le défi de tous les musées, de tous les objets de ce type-là, c'est plus tellement de conserver l'objet, à la limite, parce que conserver l'objet, c'est qu'une, entre guillemets, question d'argent, je dirais. Par contre, conserver le savoir-faire, le savoir utiliser cet objet qu'on a sauvegardé, ça c'est une autre histoire.
Alors justement, vous êtes un grand amoureux du bois. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont vos différentes fonctions dans ce domaine-là et puis d'où vous vient cette passion du bois ?
Moi, c'est mon métier depuis l'apprentissage.
Vous avez fait un apprentissage dans quel domaine ?
De menuisier et de charpentier. Et puis, j'ai travaillé toute ma vie dans ce métier-là. Mais ça ne suffit pas pour savoir utiliser un outil comme celui-ci. Ça suffit peut-être pour connaître le bois, les qualités de bois, des éléments comme ça. Mais c'est plus que ça. Et donc, à partir de là, ça a été en quelque sorte le besoin de la fondation. C'était de trouver du travail pour pratiquer ce savoir qui nous était transmis. Et c'est comme ça qu'en 2019, il y a un chalet qui est malheureusement parti en fumée au Diableret. Le propriétaire a voulu reconstruire son chalet, c'est un forestier vaudois d'ailleurs, il a voulu reconstruire son chalet avec des arbres qui provenaient des forêts qu'il voyait depuis son chalet. Et quand on lui a dit qu'on pourrait scier ces troncs d'arbres avec l'eau qui passe dans le petit ruisseau à côté du chalet qui alimente la grande eau, l'affaire était dans le sac et on a pu scier ce bois tout au long de l'été 2019. À partir de là, l'année passée, 2020, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui s'est passé. Et notamment cet été, on a scié le bois nécessaire à la construction d'un pomme-track qui va trouver place sur le site de Vidi, vers le bowl de Vidi.
Je ne connais pas ce terme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Oui, un pump track, c'est en quelque sorte un chemin de bois vallonné avec des virages relevés sur lequel, en général, des jeunes, des enfants vont avec des petits vélos, quelquefois même avec des vélos qui n'ont pas de pédalier. C'est simplement l'inertie de ces vagues et des virages relevés qui donnent l'énergie pour avancer. Il prendra place à Lausanne à l'occasion des rencontres membres du bois qui auront lieu au début du mois d'octobre. Et il va rester à disposition des jeunes de Lausanne pour s'exercer. Un autre travail qui nous convient bien, qui est bien dans le prolongement d'une scierie qui fonctionne encore avec l'eau de la rivière, on prépare le bois nécessaire à la construction d'éco-parcs. Ce sont en quelque sorte des parcs provisoires qui sont mis, je ne sais pas, à l'occasion d'un giron des jeunesses campagnardes. Il faut parquer des voitures dans un pré et hop, on pose par terre des grilles de bois qui ménagent autant les voitures qui n'ont pas besoin de s'embourber que la prairie qui, sitôt le besoin, on peut enlever ces grilles et elles retrouvent toute sa fonction. C'est la même chose avec les parkings temporaires nécessaires en hiver dans les stations, notamment au Diablerets.
Alors, à vous entendre, on sent qu'il y a énormément d'utilisations différentes du bois local, au-delà de la scierie. Dans quels principaux domaines est-ce que le bois est utilisé dans le canton de Vaud?
Le gros du volume de bois est utilisé dans le domaine de la construction. Mais pour donner peut-être un petit rapport entre le marché du bois auquel vous faites allusion et la scierie des planches, tout au long de l'été 2019, on a scié 100 mètres cubes de billon pour reconstruire le chalet auquel je faisais allusion tout à l'heure. Les grandes scieries d'aujourd'hui scient ces 100 mètres cubes en 45 minutes. Nous, il nous a fallu tout l'été. Les grandes scieries, elles scient ça en demi-heure, grand maximum une heure de temps. C'est dire que c'est impossible de parler du même marché. C'est pour ça que nous, on va sur des éléments genre les éco-parcs.
Est-ce que vous travaillez beaucoup sur la thématique du sport ou des loisirs?
C'est clair qu'à l'occasion de ces rencontres mondes, il va être discuté justement de ce marché du bois, de l'utilisation du bois. Alors c'est vrai que le plus souvent, on pense que le bois, il est utilisé à des fins de construction. Alors quand on est avec le thème sport, ben c'est les halles de sport, les piscines, des constructions de ce type-là. Mais au-delà d'une utilisation que l'on connaît, le bois énergie, les centrales de chauffe, des éléments comme ça. Sachez que dorénavant, on va utiliser de plus en plus le bois quasiment partout. Et c'est la raison pour laquelle, à cette occasion, on organise une journée dédiée entièrement à l'innovation. Et dans le domaine, il se fait des trucs de fou, véritablement extraordinaire.
Est-ce que vous avez quelques exemples alors à nous partager?
Je vais vous donner tous les exemples que vous voulez. Le premier exemple, c'est de la recherche quasiment encore fondamentale en laboratoire, où là, il y a des équipes de chercheurs qui sont à bout touchant pour rendre le bois transparent. Donc dorénavant, quand vous aurez besoin d'une fenêtre bois, il n'y aura pas seulement le cadre et le guichet, mais il y aura encore le verre, avec un pouvoir isolant thermique 10 fois supérieur au verre traditionnel.
Est-ce qu'il existe beaucoup de start-up actives dans ces domaines du bois, quand on parle d'innovation?
Bon, les start-up, à quelque part, se concentrent autour des lieux de formation. On a la chance en Suisse romande, là, il faut regarder quand même un peu large, on a la chance d'avoir une chaire du bois à l'EPFL avec le docteur Weinand à sa tête. Mais on a aussi, à l'autre extrémité de la Suisse romande, à Bienne, on a l'école suisse du bois, où là, il y a carrément un secteur dédié à l'innovation. Et c'est clair qu'autour de ces formations, cette incitation à l'innovation, c'est inévitable qu'il y a tout plein de petites pousses d'entreprises qui se mettent à phosphorer.
Est-ce que vous avez des chouchous parmi ces entreprises, ces jeunes entrepreneurs?
Ah, ça peut aller du gars qui fabrique des skis en bois dans son garage au pied du Jura à cette société qui fabrique des éléments de carrosserie à Fribourg. Des chouchous, il ne m'en manque pas.
Est-ce qu'on a beaucoup d'essences différentes dans le canton de Vaud?
Alors les principales, c'est bien sûr le sapin, l'épicéa. L'épicéa, c'est quasiment les deux tiers des arbres qu'on a en Suisse. Le sapin blanc, c'est un peu moins de 20%. Le premier feuillu, le feuillu le plus courant dans ce pays, c'est le hêtre. Presque 20% également de la forêt suisse, c'est du hêtre. Mais, et après, vous avez toute une myriade d'essences, le frêne, tous les fruitiers, bien sûr, mais c'est des quantités assez minimes. Mais donc, vous savez que par les temps qui courent et les problèmes de changement climatique, il y a pas mal de recherches qui sont faites pour... à quelque part tout gentiment bien sûr, mais adapter la forêt à cette nouvelle fonction qu'elle aura à l'avenir, à savoir de continuer à être protectrice, enfin en tout cas subsister à ces changements climatiques. Et là il y a des essences qui ont déjà été testées, notamment en France, le sapin Douglas notamment, qui a d'excellentes qualités pour les utilisations de type construction et qui a également une excellente résistance au réchauffement climatique.
Quels sont les différents endroits, les différents bâtiments iconiques dans lesquels on peut apprécier tout ce travail du bois dans le canton de Vaud?
Je citerai un bâtiment qui date déjà un tout petit peu, c'est l'IENA, l'Institut équestre national d'Avenches. Il y a un bâtiment extraordinaire là-bas. Plus récemment, Explorit, un centre d'attraction qui vient d'être construit à Yverdon avec uniquement du bois suisse. Le siège du CIO à Vidy, à son escalier central qui est un monument, je dirais, en lui-même. Très prochainement, il y a Nyon qui va construire une salle polyvalente multisport à Colovray. Et puis après, vous avez des centrales de chauffe. En parallèle de la scierie de Ruère, dans le Gros de Vaud, vous avez une société, ça s'appelle Enerbois. Et donc, cette société utilise les sous-produits de la scierie tout juste à côté pour produire de l'électricité, de l'énergie thermique, des pellets, etc., etc. Non, des exemples d'utilisation du bois, il y en a tout plein.
Alors c'est vrai que le bois, on le voit beaucoup dans les constructions, c'est là où on le voit le plus, mais on a aussi cette partie bois-énergie.
Le bois énergie, alors il se décline en quelque sorte sous différentes formes. Il y a les classiques bûches qu'on met dans sa cheminée, dans sa chaudière, etc. Et puis après, vous avez une deuxième façon de soutirer l'énergie du bois, c'est au travers de la plaquette forestière. C'est un déchiquetage assez grossier. C'est généralement utilisé dans des centrales de chauffe de, en tout cas, 0,5 mégawatt, 1 mégawatt, voire plus, c'est-à-dire pour chauffer non pas juste une seule maison, mais un quartier tout entier, voire un village, à l'image des réseaux de chauffage à distance qui se trouvent sur Lausanne. Et puis après, il y a une troisième façon de soutirer l'énergie du bois, c'est au travers du pellet. Pour le chauffage d'une maison individuelle, c'est le chauffage idéal. Aujourd'hui, il y a des systèmes de combustion. Il y a quelques millénaires qu'on se chauffe au bois et on vient de découvrir, là, il n'y a pas si longtemps que ça, un système de combustion qui fait qu'il n'y a pas de particules fines rejetées par cette combustion. Vous savez que c'est le gros problème, notamment du chauffage avec des bûches. Il y a des quantités de particules fines importantes.
Là, on serait aussi dans une solution durable, en fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on a même un petit peu provoqué ce côté durable à l'occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse. Il y a un peu plus d'une année maintenant, janvier 2020, où pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes, la flamme était produite à base de pellets.
Ces Jeux Olympiques qui ont eu lieu un petit peu partout dans le canton de Vaud, Jeux Olympiques d'hiver. D'où est née cette idée d'utiliser ces pellets pour la flamme olympique? Comment est-ce que vous avez développé ce projet?
Alors l'idée, elle est venue de la part de l'IGNOM Vaud, qui un beau matin a contacté les organisateurs, déjà en leur posant la question de savoir s'il y avait une flamme olympique aux Jeux olympiques de la jeunesse, et après s'ils étaient d'accord qu'on leur fasse des propositions à base d'une énergie renouvelable, et non pas comme ça a été le cas jusqu'à présent, avec des énergies fossiles. C'est véritablement un développement, c'est un brûleur qui est nouveau, qui sera d'ailleurs exposé à l'occasion des rencontres au Monde du Bois, pour la petite histoire, qui utilise aucune énergie autre que le combustible. Une chaudière, il y a toujours un raccordement électrique parce qu'il y a une vis sans fin, un ventilateur, je ne sais pas très bien quoi. Là, en l'occurrence, le concepteur de ce brûleur a voulu se limiter à la seule énergie de celui du combustible. Pas tout à fait la seule, puisque le combustible descendait dans le foyer par gravité, il a quand même fallu l'énergie de notre bonne vieille terre, et après le gaz montait dans le canal par thermosiphon, et la flamme s'allumait seulement au sommet de la vasque qui trônait à la place de l'Europe.
Alors Philippe Nicoli, on vous remercie beaucoup pour cette visite vraiment très instructive, et puis le partage de toutes vos connaissances sur toutes les facettes du bois. On vous souhaite une bonne continuation dans toutes vos activités, hein, retraités actifs.
C'est moi qui vous remercie et bienvenue à tous.
Merci, je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. On espère que ce voyage sonore en notre compagnie vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à parler du podcast Fréquence Vaudoise autour de vous, à partager sur les réseaux et à vous abonner à cette série de vos promotions sur myvaud.ch/podcast. Vous y retrouverez aussi des photos, des vidéos et des compléments d'infos. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode à la rencontre d'une personne et de son métier côté coulisses.